Total Sport, Cédric de Oliveira.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur RFI, vous avez bien raison. Beaucoup de choses à dire ce soir. On ira notamment en Catalogne à l'approche du retour du Barça en Liga quelques semaines après le désastre face au Bayern Munich. Après ses envies de départ cet été, Lionel Messi est très attendu par les supporters. Mondial Sport, c'est aussi du tennis à la veille du début de Roland Garros, l'un des quatre tournois du Grand Chelem. Édition très particulière à cause de la crise sanitaire dont nous parlera notre envoyé spécial Eric Mamrut. Et puis il a été expéditif hier lors de son retour sur le ring. Le poids lourd Tony Yoka n'a eu besoin que de quelques secondes pour remporter son premier combat depuis un an. De la boxe donc, et même un peu de rugby. Mondial Sport, c'est parti. Mais d'abord, on file tout de suite en Angleterre pour évoquer la troisième journée de Premier League. Il y avait quatre matchs aujourd'hui et on accueille tout de suite notre correspondant Philippe Auclair en direct de Londres. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
Alors Philippe, on ne va rien cacher aux auditeurs, on s'est parlé hors antenne un petit peu plus tôt dans la journée tous les deux, un petit peu abasourdi par la prestation de Chelsea qui affrontait West Bromwich aujourd'hui, des Blues qui ont montré deux visages.
Oui, des Blues qui étaient menés 3-0 par West Brom, le promu du Championship alors qu'on n'avait pas encore joué une demi-heure, qui aurait pu en prendre, je pense, encore deux de plus en première période, complètement désorganisé, un Thiago Silva qui n'était pas du tout à l'aise pour son début sous le maillot bleu, et puis une réaction, bon, c'est la différence de qualité également des attaquants qui a fait... La différence, j'allais dire. En effet, il a fait entrer des joueurs en seconde période, deux changements à la mi-temps pour Frank Lampard, mais franchement, un match que Chelsea peut être très satisfait d'avoir terminé sur un score de parité, parce que franchement, la première période, c'était catastrophique. Et du coup, il y a vraiment du boulot, du pain sur la planche pour Frank Lampard, hein, cette équipe de Chelsea, qui a joué trois matchs, quatre points seulement, c'est pas vraiment là où on l'attendait, après avoir dépensé pratiquement 260 millions d'euros sur le mercato. C'est colossal.
Oui, c'est beaucoup, oui.
C'est beaucoup, oui. Je pense que ça fait des envieux un petit peu partout, que ce soit en Ligue 1 ou dans le reste de la Première Ligue. L'investissement a été énorme, les nouveaux joueurs, Timo Werner, Havertz, bon, Ziyech, qu'on n'a pas encore vu. Ça fait beaucoup de choses, et cette équipe dont on attend énormément, dont on pensait qu'elle peut être un challenger pour le titre, on ne l'a pas vu aujourd'hui. On a vu un chantier d'une certaine manière qui était inférieur au Chelsea qu'on avait vu de la saison passée.
Alors, en tout cas, Chelsea qui était mené 3-0 et qui est revenu à 3 partout. Chelsea 6e, mais le leader, Philippe, pour l'instant, c'est Everton, le surprenant Everton. Ouais.
Surprenant et dans la lignée de ses matchs précédents, séduisant, avec là des recrues qui se sont tout de suite fondées dans le moule de l'équipe de Carlo Ancelotti. Je pense à Alan, mais je pense surtout à James Rodriguez, qui est absolument, mais encore une nouvelle fois, formidable, homme du match. C'était d'ailleurs contre une équipe de Crystal Palace, elle aussi invaincue jusqu'à présent, qui avait triomphé, on s'en souvient, de Manchester United. Donc une équipe de Palace difficile à jouer, avec un Bonza très combatif, et qui en fait ne s'est avoué vaincu que sur un penalty, on va dire, discutable. Mais Everton l'a emporté en montrant de nouveau les qualités que l'on voit depuis le début de la saison. Et le petit sourire de Carlo Ancelotti à la fin de la rencontre, on sent que l'ancien entraîneur du Real Madrid, du PSG, de Milan, sent qu'il a une très bonne équipe entre les mains et qu'on peut s'attendre à ce que Everton soit un petit peu le toutou qui vient déranger le jeu de quilles de Liverpool, de Manchester City, Manchester United et compagnie. Et cette fois-ci, cette équipe d'Everton qui avait terminé 12e, à mon avis, elle terminera dans le top 10 et elle est une candidate pour une place en Europe.
Voilà, Everton donc qui s'est imposé 2-1 face à le Crystal Palace avec un but pour Crystal Palace quand même du Sénégalais Chekou Konaté qu'on doit signaler. Et un mot, Philippe, sur Manchester United qui avait joué un peu plus tôt dans la journée. Alors Manchester United qui s'en est sorti vraiment dans les derniers instants de la rencontre face à Brighton.
99e minute.
Ça fait tard.
Ça fait tard. Dans les arrêts de jeu, puisque Brighton avait arraché l'égalisation pendant les arrêts de jeu, et que tout le monde pensait que le match allait s'arrêter là. Non, il y a eu une action de jeu supplémentaire, un corner, et voilà. Et Brighton a payé le prix. Un penalty de Fernandez, qui d'autre. Son 17e penalty réussi de suite au passage. Hein. Il n'est pas mauvais dans cet exercice. Mais là aussi, une équipe de Manchester United qui a souffert. Imaginez-vous que Brighton a frappé le bois, le cadre de Manchester United, 5 fois. 5 fois, dont 3 par le Belge Léandre Trossard. Imaginez-vous qu'il y a eu un penalty qui avait été sifflé en faveur de Brighton, sur lequel l'arbitre est revenu après avoir consulté l'écran sur le bord de, sur la ligne de touche, et franchement, c'était pas évident. Donc, énorme soupir de satisfaction et de soulagement du côté de Solskjaer, qui disait d'ailleurs à la fin du match, on s'en est très très bien tiré, c'est moins qu'on puisse dire. Mais chapeau à Brighton, mais Manchester United a fait l'essentiel et a gagné cette rencontre, mais encore une fois, in extremis, à la 99e minute.
Voilà, succès 3-2 donc de United, United qui est 13e avec 3 points, c'est compliqué ce début de saison, des soucis pour United, des soucis que n'ont pas pour l'instant Liverpool et Arsenal qui s'affrontent en clôture de cette troisième journée. On va quand même en parler quelques instants, Philippe, ce sera lundi. Belle affiche pour conclure cette troisième journée entre Liverpool et Arsenal.
Et une très très belle affiche entre deux équipes invaincues, deux équipes qui sont invaincues et convaincantes, et qui survient, chose assez curieuse, après les deux derniers rendez-vous entre ces équipes, c'est Arsenal qui les avait gagnés. N'oubliez pas ça, que ce soit en championnat ou que ce soit dans le Community Shield.
Et donc de Pierre-Emerick Aubameyang, oui.
Ah oui, puis c'est lui qui est sur un nuage, qui a prolongé une équipe d'Arsenal qui en ce moment a le sourire, et une équipe de Liverpool qui a également le sourire. C'est vraiment le gros choc, on peut le dire, de cette troisième journée du championnat d'Angleterre, qui permettra, on est à trois prochaines journées, on peut rien savoir véritablement, mais on aura une première indication sur le regain en particulier d'Arsenal, et c'est sur le fait que Liverpool, qui a vu des petits problèmes, on va dire, pour commencer cette saison, à trouver le rythme de croisière. Est-ce qu'on va retrouver le Liverpool un peu plus conquérant de la saison passée? Est-ce qu'on va voir un Arsenal à la hauteur de ce qu'on a vu sur les dernières semaines? Réponse lundi soir, puisque c'est lundi soir que cela se jouera, avec également quand même à suivre un Manchester City, Leicester City demain. À ne pas manquer, deux autres équipes invaincues. Voilà, mais un week-end qui a très très bien commencé.
Un joli programme en tout cas. Merci beaucoup Philippe Auclair pour ces éclairages et à bientôt sur RFI, la Première Ligue. Effectivement, il y a eu un quatrième match aujourd'hui puisque Southampton s'est imposé 1-0 à Burnley. Demain, il y aura donc notamment Tottenham Newcastle et Manchester City Leicester. Philippe Auclair en parlait. En France, la Ligue 1 a commencé plus tôt que tous les autres championnats européens. C'est donc déjà la cinquième journée. Et Rennes confirme son excellent début de saison. Les Bretons ont été battre Saint-Etienne sur sa pelouse 3-0, avec notamment un but du Marocain Naïef Aguer. Belle intégration pour l'ancien Dijonais. C'est son deuxième but depuis le début de la reprise. But également du Franco-Guinéen Serou Guirassy. Et puis Marseille également confirme ses difficultés il y a quelques instants. Depuis sa victoire face à Paris, l'OM n'a pris que 2 points en 3 matchs. Match nul ce soir face à Metz, 1 partout, mené par Metz 1-0 grâce au Sénégalais Ibrahim Manian. Les Phocéens ont arraché l'égalisation à la toute dernière seconde. Steve Mandanda a encore été énorme dans les buts marseillais. L'OM provisoirement 6e. Dommage pour le FC Metz et Ibrahima Niane, le buteur sénégalais dont c'est déjà la 3e réalisation cette saison. Niane passé par Génération Foot à Dakar où sont passés beaucoup de joueurs et notamment Sadio Mané, la star de Liverpool. Un bel exemple pour Ibrahima Niane.
Sadio Mané, je peux dire, c'est un exemple pour tous les Africains. Je dis même pas pour les Sénégalais. Je lui salue de passage. C'est un grand frère, vraiment qui est exceptionnel, qui nous donne tout le temps des conseils, qui est toujours présent, voilà. C'est un modèle en fait pour nous. C'est un vrai exemple. Donc on va tout faire pour être au top, pour être faire le maximum de nous-mêmes pour être au sommet, en fait.
Voilà, Ibrahima Niane, le Messin, au micro de nos confrères de Canal+. Demain, suite de la 5e journée de Ligue 1, avec 7 matchs au programme de Reims-PSG, les Parisiens avec Kylian Mbappé et Neymar de retour de suspension après son carton rouge face à Marseille, c'était il y a 2 semaines. En Espagne, 3e journée de Liga avec déjà des difficultés pour le Real Madrid. Après avoir été tenu en échec la semaine dernière face à la Real Sociedad, les Merengues ont retourné la situation face au Betis Séville. Les Andalous menait 2-1 grâce à une réalisation de l'Algérien Aïssa Mandi, mais les Madrilènes se sont finalement imposés 3-2 grâce à un pénalty en fin de match de l'incontournable Sergio Ramos. Ça repart comme c'était terminé la saison précédente pour le Real, donc avec Sergio Ramos, le capitaine. Demain, le Barça débute sa saison au Camp Nou face à Villarreal. Les Catalans exemptés des 2 premières journées pour avoir disputé le Final 8 de la dernière Ligue des Champions. C'était le mois dernier à Lisbonne. Retour pour les Blaugrana qui ont beaucoup à se faire faire pardonner depuis la débâcle face au Bayern Munich 8-2. Un traumatisme suivi par un changement d'entraîneur. Le néerlandais Ronald Koeman est désormais sur le banc. Et puis, évidemment, le vrai faux départ de Lionel Messi, qui a dû se résoudre à rester en Catalogne. La star est toujours en froid avec ses dirigeants. Il les a d'ailleurs encore critiqués cette semaine à propos du transfert de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid. Bref, beaucoup d'incertitudes pour les Catalans à l'heure de reprendre la saison. Reportage d'Antonin Vabre.
Léo Messi n'a certainement jamais été autant attendu avant un match du FC Barcelone. La patience des supporters commence à atteindre ses limites, dépassée comme tous ses coéquipiers lors de leur catastrophique quart de finale perdu 8-2 face au Bayern de Munich. Il avait ensuite exprimé son envie de quitter le Barça. Les Catalans n'apprécient guère son attitude à l'heure de commencer la saison face à Villarreal.
Que Messi se bouge les fesses, au moins cette saison je peux le supporter.
Pour l'instant je reste positive, il va nous donner du plaisir et s'il ne le fait pas, on le raye de la liste.
Les mauvaises manières qu'il a eues quand le Barça a perdu 8-2, de ne pas parler aux supporters, ça s'est mal passé.
On sent que Messi en a vraiment marre. Il faut changer rapidement les dirigeants et que Messi se concentre de nouveau uniquement sur le football.
Dernier épisode en date sur Instagram, l'Argentin s'en est pris à la direction, trouvant qu'elle a jeté Luis Suarez comme un malpropre. Son entraîneur Ronald Koeman, joueur du Barça de 1989 à 1995, redécouvre ce club et ses extravagances. Il comprend la tristesse de Messi de voir partir son meilleur ami, mais ne doute absolument pas de son professionnalisme.
Le plus important pour moi, c'est comment Léo a été aux entraînements et puis dans les matchs. Il a été un exemple pour tous lorsqu'il s'entraînait et puis en termes d'engagement aussi envers le club et envers l'équipe. Il n'y a même pas eu un seul entraînement où j'aurais pu dire que ça n'allait pas. Il a été touché, mais il est revenu. Je n'ai aucun doute à propos de Léo Messi de ce point de vue-là.
Après avoir dit ce qu'il avait à dire, place au jeu donc pour le sextuple Ballon d'Or. Il en a tout intérêt, selon David Bernabéu, journaliste au quotidien sportif catalan El Mundo Deportivo.
Ce qu'il doit faire, c'est se concentrer sur son nouvel entraîneur. Les jeunes joueurs du club doivent le motiver aussi. Je crois que quand il ira sur le terrain, ce sera le Léo Messi que l'on connaît. C'est un compétiteur né, il va remettre sa tenue de joueur et il va se donner parce qu'il n'a pas le choix. S'il ne joue pas bien, c'est son prestige qui en pâtira, bien au-delà de son rapport avec les dirigeants.
Ce qui est certain, c'est que même en cas de contre-performance face à Villarreal au Camp Nou, Léo Messi ne risque pas d'être sifflé, car tous les stades de la Liga sont toujours à huis clos. Antonin Vabre, Barcelone, RFI.
Alors le Barça qui jouera donc demain face à Villarreal, coup d'envoi à 19h temps universel. Ce sera l'un des sujets de Mondial Sport demain. De son côté, l'Atlético de Madrid affrontera Grenade et puis le FC Séville battu jeudi en Supercoupe d'Europe par le Bayern se rendra à Cadix, l'un des promus cette saison. 23h43 à Paris, l'heure de se concentrer sur le tennis car demain débutera le tournoi de Roland-Garros avec 4 mois de retard. Le grand chelem parisien qui a dû être décalé à cause de la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire dure depuis plusieurs mois et elle rend cette 119e édition forcément particulière. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde.
Eric, vous allez suivre pour RFI cette quinzaine un peu spéciale. Ce Roland-Garros 2020 va se dérouler quasiment à huis clos.
À peine 1000 personnes, effectivement, Cédric, 1000 personnes chaque jour qui auront le privilège de venir au stade pour voir de près leur champion, une misère comparée aux 40 000 qui sont en temps normal accueillis à Roland-Garros quotidiennement. Ainsi en a décidé le gouvernement suite à la progression du virus ces dernières semaines en France. 1000 personnes sur les 12 hectares du stade. On sera donc effectivement proche du huis clos, comme à l'US Open début septembre à New York. Conséquence, une ambiance quasi nulle, même quand un joueur français jouera, pas de foule en délire, de holà pour l'encourager. Un vrai désavantage selon l'ancien champion tricolore Fabrice Santoro, un peu caustique au passage.
Bien évidemment, j'étais déçu d'apprendre cette nouvelle. J'ai plein de bons souvenirs à Roland-Garros et ces souvenirs sont liés à des grosses bagarres devant un public qui était souvent acquis à ma cause parce que je suis français. Donc, bien évidemment que les Bleus ne pourront pas aller chercher le public. Après, à ceux qui disent depuis toujours que les Français jouent mal à Roland-Garros parce qu'il y a trop de pression liée aux médias et au public, eh bien, c'est un bon moyen de leur dire que si on gagne pas le tournoi, ce sera pas uniquement lié au public, puisqu'il n'y en aura pas. Ça voudra peut-être dire tout simplement que les étrangers sont meilleurs que nous, Français.
Voilà, Fabrice Santoro, Eric, le premier à être attristé de cette situation, c'est le Parisien Gaël Monfils.
Roland Garros, c'est depuis toujours son tournoi fétiche. C'est là qu'il a connu ses plus belles émotions devant son public, sa famille et ses amis qui l'encouragent. Une vraie communion avec mon fils le showman et l'affectif qui cette fois sera privé de tout cela. À tel point que pour lui, ce tournoi n'aura de Roland Garros que le nom, Gaël Monfils.
Ça va pas être le même tournoi que j'ai joué avant. Ça va pas être le même tournoi dont j'ai rêvé. Ça va être un tournoi différent dans mon lieu préféré, on va dire. Mais on pourra pas dire que ce sera le tournoi que voilà dont t'as rêvé, avec forcément une ambiance de dingue, des supporters, ouais, de la magie, quoi, vraiment la grosse magie. Non, ça va être différent, ça va être ton tournoi préféré d'une façon différente. Et forcément, ça va faire bizarre d'avoir peut-être un grand stade avec que 1000 personnes. Normalement, à chaque fois, je dis Roland Garros, c'est un peu le point de chute de ma famille, fin mai, début juin. Cette année, c'est pas possible, même en septembre, octobre. Donc, c'est ce qui m'attriste le plus, c'est de pas pouvoir voir ma famille, de pas pouvoir voir mes amis, mais surtout ma famille. Ça fait beaucoup de temps que je les ai pas vus, donc c'est ce qui m'attriste le plus.
Gaël Monfils, qui a perdu ses deux matchs de rentrée après une coupure de 6 mois, 9e mondial, il sera malgré tout la meilleure chance française de ce tournoi. Privé de Joe Wilfried Tsonga et de Lucas Pouille, forfait sur blessure. Ça s'annonce par ailleurs très compliqué pour les Gasquets, Simon et Benoît Paire. La bonne surprise tricolore pourrait en fait venir du jeune Hugo Humbert, qui vient de battre le numéro 5 mondial Daniil Medvedev à Hambourg cette semaine.
Des surprises, Eric, il pourrait y en avoir durant cette quinzaine en raison des conditions très particulières sur ce tournoi.
Des tests PCR à répétition, ajouter un confinement à l'hôtel en dehors des matchs et des entraînements, des contraintes anxiogènes pour de nombreux joueurs. La fraîcheur, l'humidité de l'automne parisien vont par ailleurs radicalement changer les conditions de jeu, avec une terre battue très lente et une balle très lourde. Tout ce que déteste Raphaël Nadal, le maître des lieux vainqueur à 12 reprises, avide, on le sait, de repères. Cette fois, il pourrait bien être déstabilisé par autant de changements. Confirmation avec le directeur du tournoi, Guy Forget.
C'est vrai que cette année, la balle est différente. Les conditions de jeu sont différentes parce que l'on joue un peu plus tard dans la saison et que l'hygrométrie, la chaleur peut changer un petit peu le rebond de la balle. On sait que Nadal joue avec des effets extrêmement prononcés qui seront peut-être moins marqués cette année. Il n'aura pas son staff habituel dans sa globalité, un staff réduit pour lui. On sait qu'il aime bien le même hôtel, prendre la même chambre. Ce ne sera pas le cas cette année une fois. Et on a vu des garçons qui commencent à y croire. Schwartzmann à Rome la semaine dernière a fait un match époustouflant. Donc peut-être que cette année, on va assister à des surprises. Mais il est tellement bluffant, Raphaël Nadal, depuis plus d'une décennie. Il nous a surpris tous, hein, à chaque fois, contre les meilleurs joueurs du monde, même lorsqu'il était malmené, qu'il est quand même difficile de ne pas en faire le favori de ce tournoi.
Nadal donc battu à Rome et en 2-7 par l'Argentin Diego Schwartzmann lors de son tournoi de rentrée. Nadal malgré tout favori en compagnie de Novak Djokovic et de Dominic Thiem, qui vient de remporter à New York le premier grand chelem de sa carrière. La jeune garde sera par ailleurs en embuscade avec les Medvedev, Tsitsipas et autres Canadiens, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, dont le père est togolais.
Voilà, Félix Auger-Aliassime, un tournoi qui s'annonce donc plus indécis que d'habitude. C'est encore plus vrai, Eric, pour le tableau féminin.
Effectivement, l'absence de la tenante du titre Ashley Barty, l'Australienne qui n'a pas voulu faire le déplacement à Paris, et également de Naomi Osaka qui est blessée. Elles sont une petite dizaine à pouvoir prétendre soulever le trophée, de Halep à Pliskova, en passant par les Azarenka, Kenin ou Muguruza, sans oublier l'inusable Serena Williams. Cela promet une belle empoignade donc dans le tableau féminin. Bref, à l'arrivée, un tournoi plein d'incertitudes qui s'annonce passionnant malgré le contexte. À suivre donc surtout à la télévision et puis sur RFI. Car nous faisons partie des très peu de médias autorisés à venir commenter ce tournoi sur place.
Et oui, et tant mieux pour les auditeurs de RFI, Eric Mamrut. On vous retrouvera d'ailleurs pendant 2 semaines. Et bien entendu, dans Mondial Sport, bonne soirée. Et à demain.
Avec grand plaisir, bonne soirée et à demain.
Allez, place à la boxe dans Mondial Sport avec un combat très attendu pour Tony Oka. Ça faisait 1 an que le champion olympique des poids lourds à Rio n'était pas monté sur un ring. Il affrontait son compatriote Johan Duopa. C'était à Nanterre en région parisienne. Un combat expéditif sous les yeux d'Antoine Grenier.
Mesdames, messieurs, dans le poids rouge, l'artiste
C'était son grand 8, le virage à ne pas manquer sur sa route vers la gloire. En s'avançant vers le ring, Tony Yoka devait chasser les doutes. Ce n'est de ses 12 mois sans compétition, Covid-19 oblige, ce n'est avant la pandémie, sur son niveau réel, vu la faiblesse de ses 7 adversaires précédents. L'opposant du soir, Johan Duopa, c'était le cran au-dessus. Ancien sparring partner de Yoka, mais surtout du multiple champion du monde des lourds, Vladimir Klitschko. Duopa, 39 ans, le dur au mal par excellence, prêt à encaisser, pensait-on, finalement pas tant que ça. Une minute 30 de combat, Duopa envoyé deux fois au sol et finalement arrêté par l'arbitre, Yoka en pleine maîtrise.
Quand je le touche la première fois, il va au tapis, je savais qu'il ne fallait pas que je me précipite. J'entendais mon coach crier « Vas-y, doucement, ne te précipite pas ». Donc voilà, j'y suis allé tranquillement, mais j'ai quand même essayé de le retoucher après. J'ai vu que je l'ai ressonné, j'ai tout lâché. Je me suis dit « il me reste encore des secondes dans ce round, je ne vais pas le laisser récupérer pour rien ». C'était puissance max, là. Il fallait tout donner. Vous savez, un Johan qui se relève, si je le laisse repartir dans son coin et qui se remotive, c'est un autre combat après.
Incrédule, agacé par un arrêt qu'il jugeait prématuré, Johan Duopa est sorti touché, plus émotionnellement que physiquement. Habitué à prendre des coups, le natif d'Abbeville a cette fois du mal à encaisser.
100 fois, ça se voit, je me relève tout de suite. Bien sûr, la décision est faite. C'est fini et je pense que pour moi, c'est la fin des temps. Je voulais pas un résultat comme ça. Je pense réellement que j'ai fait mon temps et que je vais m'occuper de ma famille. C'est la première fois que je suis KO aussitôt et ça met un coup au moral pour un mec comme moi qui a toujours montré qu'il était un dur, quoi. Là, je me suis fait surprendre. Il faut savoir arrêter quand il faut.
Défié à même le ring à la sortie de son combat par Raphaël Tronchet, Yoka a préféré en sourire. Le triple champion de France des lourds, 93e mondial, avec qui il entretient des relations tumultueuses, n'est pas l'adversaire qu'il lui faut, estime le champion olympique. Yoka lorgne plutôt sur un adversaire d'une plus grande envergure internationale.
C'est vrai que là, avec le Covid, on avait la possibilité que de boxer ici. Maintenant, les frontières vont se réouvrir. Je peux boxer aussi en Angleterre. Voilà, il faut juste attendre et voir comment ça se décante. Maintenant, je peux regarder vers l'avant. J'aimerais bien boxer Joyce, White, même Povetkin, Chisora. Je pense que c'est les boxeurs là qui sont pas dans le top 5 mondial. Et je peux passer par eux pour monter dans le classement.
Reste à boucler l'année 2020. Tony Yoka souhaite deux combats supplémentaires. Un en novembre, l'autre en décembre.
Voilà, reportage d'Antoine Grenier à Nanterre. À noter également que lors de cette soirée, la femme de Tony Yoka, Estelle Molsley, était également au programme, championne olympique des poids légers, elle à Rio. Elle a battu sa compatriote Aurélie Froment au point un an, elle aussi, après son dernier combat, et seulement 4 mois et demi après avoir donné naissance à un deuxième enfant. Estelle Molsley qui a donc remporté son 7e combat professionnel. Allez, on parle rugby maintenant dans Mondial Sport. C'était un week-end de Coupe d'Europe. On connaît l'affiche de la finale de la Champions Cup. Ce sera un duel franco-anglais. Le Racing 92 défiera Exeter. On en parle tout de suite avec Sarah Lou Bacouche. Bonsoir Sarah Lou.
Bonsoir Cédric.
Le rugby français rêvait donc d'une finale avec deux clubs tricolores. Il n'y en aura finalement qu'un seul le 17 octobre.
Et ce sera le Racing 92 qui a arraché la qualification face aux Saracens, tenant du titre, succès au tout dernier moment, 19-15, mené de 3 points à 4 minutes de la fin du match, les Franciliens se sont imposés de justesse grâce à une inspiration de Finn Russell et un essai salvateur, le seul du match signé Juan Imhoff.
Très bel essai d'ailleurs.
Troisième finale en 6 ans pour le Racing qui espère remporter enfin son premier trophée européen. Peut-être la bonne année pour Laurent Travers, le manager des Franciliens qui louait l'état d'esprit de son équipe après la rencontre.
Je dis bravo l'état d'esprit mais aussi le côté mental de cette équipe. C'est que dans des circonstances comme celle-ci, demander aux Saracens, c'est rare qu'ils perdent un match. Et ce soir, ils se sont fait prendre à leur propre jeu, puisqu'on a eu cette capacité à pouvoir scorer et passer au devant du score. Et à partir de là, la confiance s'inverse.
Voilà, Laurent Travers et le Racing qui affronteront donc Exeter en finale.
Oui, car le stade toulousain s'est lui incliné dans un Sandy Park à huis clos, le stade des Chiefs. Le score, 28-18, malgré un match convaincant. Les Rouges et Noirs ont beaucoup entrepris, mais sont tombés sur une équipe d'Exeter très solide et tout simplement plus efficace. 4 essais à 2 pour les Anglais qui vont disputer la première finale de Coupe d'Europe de leur histoire.
Ouais, Exeter qui a mérité sa victoire, mais il y avait tout de même beaucoup de frustration du côté de Toulouse.
Oui, les Toulousains qui ont eu beaucoup de mal à se préparer normalement cette semaine, un seul entraînement collectif. Le club ne voulait surtout prendre aucun risque à cause du Covid, mais ce sont surtout les nombreuses occasions d'essai que peuvent regretter Toulouse et l'ouvreur Romain de Tamac.
C'est une déception parce qu'on avait quand même coché cette Coupe d'Europe maintenant depuis 2 ans. On arrive à revenir en demi-finale, on se l'est gagné tout au long de l'année. On est invaincu, on fait un super quart de finale et voilà, on savait qu'on tombait, je pense, sur la plus belle équipe d'Europe en demi. Donc on n'avait rien à perdre, mais on était quand même confiants de nous. On était venu ici chercher cette victoire. C'est pas chose de faite, mais voilà, je pense qu'on est quand même plutôt contents et la saison n'est pas finie.
Propos recueillis par France Télévisions. Toulouse ne remportera donc pas une 5e Coupe d'Europe. Le club partage le record de titres de la compétition avec Leinster. Ils ont tous deux 4 coupes à leur actif. De son côté, Exeter confirme sa progression. Après avoir rejoint l'élite du rugby anglais en 2010, les Chiefs ont gravi les échelons et disputeront donc cette année leur première finale en Champions Cup.
Et ce sera donc le 17 octobre à Bristol, en Angleterre. Merci beaucoup, Sarah Loubacouche. Très bonne soirée à vous et à bientôt dans Mondial Sport.
À bientôt.
Et sachez également, pour être complet en rugby, que dans l'autre Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe, le Challenge européen, il y aura un autre duel franco-anglais. Bristol, justement, défiera Toulon, Toulon qui a dominé à Mayol les Anglais de Leicester 34-19. C'était ce soir donc en demi-finale du Challenge européen. La finale entre Toulon et Bristol aura lieu à Aix en Provence. Il me reste quelques minutes pour vous parler de basket, puisqu'en ce moment se joue les finales de conférence dans la bulle sanitaire d'Orlando. C'est en Floride cette nuit. Finale de conférence donc entre les Lakers et les Denver Nuggets. Les Lakers qui peuvent se qualifier pour leur première finale NBA depuis 2010. On parlera justement des Lakers et de cette attente à Los Angeles. On en parlera demain dans Mondial Sport. Ce sera au programme de cette émission. Si vous voulez réagir sur Mondial Sport, vous avez nos réseaux sociaux d'ailleurs, sur Twitter, sur Instagram également et sur notre page Mondial Sport, tous les auditeurs. Donc vous pouvez réagir au programme de l'émission. D'ailleurs, il y a c'est Bill Gates qui nous parlait tout à l'heure, eh bien, de Ronald Koeman et de Lionel Messi, voilà, pour savoir qui Koeman ne comptait pas sur lui cette saison. Eh bien, Bill Gates, on en parlait de Lionel Messi, on verra demain s'il se débrouillera bien face à Villarreal pour le retour du Barça en Liga. Voilà, Mondial Sport, c'est terminé pour ce soir. Il est 23h58 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI.
RFI, la sélection du mois. Protoji. Charlie Couture.
Passer les frontières en marchant la nuit. Parti de là-bas, il était venu ici. Il avait pas une chance, c'était ça ou rien. Y'a les gars qui ont pas de chance.
RFI. On est trop loin.